Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel.
Salut Guy.
Salut Bernard.
Pour la dernière de cette saison.
Voilà, donc Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Vous écoutez Radio PFM, bien entendu, et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, petit rappel, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813. L'association des amis des littératures policières, Hervé Delouche, le président de 813, habituellement avec nous au téléphone ou en direct dans les studios, ne peut être des nôtres aujourd'hui, mais nous le retrouverons après l'été pour de nouvelles variations en noir. Alors le sommaire de ce variation en noir numéro 10 pour ce dernier vendredi du mois de juin 2014 est quelque peu bouleversé. Avec Hervé Delouche, nous avions prévu de vous parler entre autres de deux romans noirs français, Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu aux éditions Actes Sud, collection Actes Noirs. Et Après la guerre de Hervé Lecor, rivage thriller. Nous avions aussi prévu de parler de Joe, le roman de Larry Brown qui vient d'être adapté au cinéma et réédité à cette occasion aux éditions Gallmeister. Ce n'est que partie remise et nous reviendrons bien entendu avec Hervé Delouche sur ces livres. Alors, justement, puisque je viens d'évoquer les éditions Gallmeister, je vous propose aujourd'hui de retrouver Oliver Gallmeister, le fondateur de ces éditions, ainsi que François Guérif, l'incontournable directeur des collections Rivage Noir et Rivage Thriller. C'est un extrait de l'émission Édité du Noir que nous avions animé en direct et en public avec Hervé Delouche le 1er mai dernier au Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras. Alors après ce retour au salon du 1er mai, je vous donnerai quelques pistes de lecture pour cet été, en particulier à l'occasion de la préparation de l'attribution des trophées 813-2014 qui seront décernés en octobre prochain. Voilà, donc on retrouve, pour commencer, François Guérif au Salon du Livre d'Arras le 1er mai 2014. C'était il y a deux mois à peu près.
Ça remonte à longtemps. Je veux dire que moi, c'était un choix à l'époque plutôt plus difficile sans doute qu'aujourd'hui, parce que bah, je rappelle que quand j'ai commencé dans l'édition, c'est en 1978, donc ça fait 36 ans, et qu'il y a 36 ans, bah, évidemment, vous ne devez pas vous en souvenir, mais à l'époque, c'était le moment où toutes les grandes collections de romans policiers, de romans noirs reculaient en France, où la série noire, où la collection Un mystère, où etc. Diminuaient de moitié leur parution pour finalement peu à peu disparaître. Et que c'était le moment de l'explosion de la science-fiction. Et que on disait, on pouvait lire dans les journaux et qu'on disait dans les milieux professionnels, écoutez, le polar c'est mort, la littérature populaire de demain c'est la science-fiction. Donc moi mon engagement dans le noir ça a presque été quelque chose de, comment dire, de militant en disant non c'est pas vrai, le roman noir n'est d'abord pas mort. Et deuxièmement il y a énormément d'inédits de grands auteurs qui ne sont pas parus. Et puis troisièmement on a traité ce genre de façon un petit peu malhonnête, dans le sens où les traductions étaient tronquées, où on estimait que c'était une sous-littérature. Donc voilà, ça a correspondu à toute une espèce de mouvement avec des auteurs de policiers. C'est aussi d'ailleurs à ce moment-là qu'est créé 813. Hein, donc il y a une espèce de petit mouvement qui s'est créé un peu autour de la librairie au troisième œil que j'avais fondée, où d'un seul coup, tous les gens qui se sentaient d'une certaine façon en péril par rapport à une littérature populaire qui, soi-disant, était en train de disparaître, se sont regroupés pour unir leurs forces. Et voilà, quoi. Et c'est comme ça que le choix du noir s'était imposé à moi. Et bah, j'ai pas arrêté depuis.
Hervé, Oui, je voudrais demander à François, il y a donc ce que tu as raconté qui t'amène à tes premières activités éditoriales. Il y a Clancier Guénot, il y a Red Label, des collections, il y a Engrenage International qui nous font déjà découvrir des auteurs que tu aimes, notamment anglo-saxons. Mais arrive en 86, je crois, commence l'aventure qui va de Rivage Noir, qui va aussi donner Rivage Thriller. C'est excellemment raconté par un livre très vivant que François Guérif a publié il y a quelques mois, qui s'appelle Du Polar, des entretiens avec le journaliste Philippe Blanchet. Mais est-ce que tu peux un peu nous dire comment ça commence chez Rivage et comment ça va se transformer dans la belle aventure que nous connaissons?
Oui. Alors, je tiens quand même à préciser que même chez Red Label, il y avait un auteur français, hein, c'était Michel Lebrun. Oui. Bah, ce qui est arrivé, c'est que, curieusement, donc, quand dans cette collection, la première collection Red Label, j'amène des inédits de gens qui étaient connus, des amateurs comme David Goodis, comme James Cain, comme Robert Bloch, Frédéric Brown, là, j'ai un soutien de la presse, c'est vrai, assez fort. Il y a ce regroupement de gens qui aiment ce genre. Mais bon, commence aussi un peu les montagnes russes. C'est-à-dire que PAC fait faillite, la collection Red Label en numéro 25. À ce moment-là, je propose de faire une collection semblable chez Fayard, parce qu'il lance une collection qui s'appelle Fayard Noir avec de la Corta. Le polar, à ce moment-là, est lui aussi sur des montagnes russes, c'est-à-dire qu'il y a un renouveau d'intérêt, et puis il y a un côté un peu snob, en effet aussi, qui se met. Il y a quelqu'un qui apparaît qui s'appelle De La Corta, il fait un livre qui s'appelle Diva. Le Diva est un phénomène, pas littéraire, mais en tous les cas, marche très bien. Il y a le film de Jean-Jacques Benex, enfin, etc. Et Fayard lance une collection, ils me disent non, faites le volet étranger de Fayard Noir. Et puis Fayard Noir s'arrête au 22e numéro parce que Jean-Claude Lattès décide de l'arrêter. À ce moment-là, le Fleuve Noir me dit mais pourquoi vous n'êtes pas venu chez nous ? Donc je refais le domaine étranger d'une collection française qui s'appelle Engrenage. Et au bout de 2 ans et demi, pareil, la collection s'arrête. À ce moment-là, moi, j'ai pris un travail comme journaliste dans un journal de vidéo et je me dis, bon, c'est fini, quoi. Et c'est le hasard, j'ai toujours eu cette chance, c'est-à-dire que d'un seul coup, dans ce journal, est arrivé un jour un monsieur qui s'appelait Edouard Dandris, qui dit, voilà, nous avons créé avec mon cousin une collection, une édition qui s'appelle Rivage, que vous devez connaître. Malhonnêtement, j'ai répondu oui, alors que j'avais aucune idée de ce qu'étaient les éditions Rivage. Il dit, voilà, nous publions surtout... Alors, à l'époque, c'était les chambres d'hôtes des livres de tourisme et une collection de littérature étrangère. Et nous aimons beaucoup le roman policier, le roman noir américain. Et nous aimerions faire une collection. Quitte à faire une collection, on s'est dit qu'il faudrait un directeur de collection. Et quitte à choisir un directeur de collection, on a vu ce que vous avez fait précédemment. Et voilà. Et franchement, à l'époque, j'ai pas dit oui tout de suite. Et c'est ma femme qui m'a dit, bah, écoute, fais-le. Tu sortiras encore 25 inédits. Et puis voilà. Et puis ça prenait un peu le chemin parce que, bon, toujours pareil, l'économie du livre de poche, enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais, et j'ai eu la chance, par contre, là, est arrivé le miracle que tout éditeur attend. C'est-à-dire que j'ai acheté les livres d'un inconnu. C'était un gros pari qui s'appelait James Ellroy. Et puis que le premier livre de Ellroy a décollé et a fait. Exploser, pas d'autre mot, la collection, qu'il a apporté évidemment l'oxygène financier nécessaire et que du coup on a créé Rivage Thriller et tout. Donc voilà, ça a été petit pas par petit pas jusqu'à cette collection.
Oliver Gallmeister, toi c'est 20 ans après la création de Rivage Noir en 2006 que tu crées la maison qui porte ton nom. Comment ça se crée ? Quel est le signe d'identité qui va devenir une identité forte de la maison ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Et puis aussi de la place que le noir va prendre.
Je ne vais pas répondre à cette question-là, en fait. Je vais juste
très bien.
Suivre ce que disait François. À un moment, tu as dit que tu as créé tes premières collections dans un esprit presque militant. pour montrer qu'il y avait une littérature noire, etc. Quand tu as créé ça, moi j'avais 8 ans. Histoire de, de contextualiser voilà. Un peu les choses. Moi, les premiers polars que j'ai lus, c'était au moment de la création de Rivage. Et avec l'écart d'âge qui est le nôtre, ce qui est très intéressant, c'est que à ma génération, donc moi j'ai 44 ans, la question ne se pose plus du tout. Je crois que, et ça c'est le travail que tu as entrepris avec d'autres, avec voilà, 813 et notamment, mais c'est que lorsqu'on aime la littérature, on aime la littérature noire, point barre. On aime toute bonne littérature. La question de littérature blanche ou noire, c'est une question plus ou moins technique, mais pour moi, il ne fait aucun doute que voilà, James Ellroy, que j'ai découvert quand j'avais 18 ans, est un des plus grands écrivains américains, point barre. Voilà, ce n'est pas du tout une question de genre. Donc, en tant que jeune éditeur, en fait, au départ, je ne pensais pas que j'allais faire une collection noire. C'est simplement parce que je ne pensais pas que j'en serais capable et que... voilà. Mais ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, il se trouve que, pour moi en tout cas, le noir, c'est une sensibilité littéraire. Et le fait de dire qu'un livre est noir ou blanc, de le mettre dans une collection noire, une collection blanche, c'est un truc d'éditeur. Fondamentalement, l'écrivain, déjà, ça ne marche pas comme ça aux États-Unis. Il n'y a pas cette notion de... Vous voyez des livres sur les tables qui sont mélangés. Il y a des sections... crime dans les librairies, mais il y a aussi sur les tables principales, on mélange des livres de James Ellroy avec des livres de Philip Roth. Voilà, donc, et moi j'ai suivi ça complètement instinctivement, sans poser de questions, et après j'ai adopté une collection noire, appelée Noire, parce que c'est le jeu du marché. Mais c'est pas, on n'est pas du tout dans le même contexte que celui dans lequel François a lancé. Alors ça, je pense que tous les éditeurs de ma génération, en fait, sont redevables à François de ça, en fait. Sachant que maintenant, tu parlais des montagnes russes et avec la SF, etc. Maintenant, il faut savoir qu'un roman sur trois qui est publié en France est un polar. Tout le monde fait des polars. Même des maisons d'édition scientifiques font des polars. Il y a des polars régionaux, il y a des polars médicaux, il y a des polars... Enfin, donc ça, du coup... ça ne veut plus dire grand-chose en réalité. Moi, je préfère parler de littérature, tout simplement.
Je crois que c'est un peu ce qui nous réunit tous ici, et c'est un point commun entre vous deux, en tout cas, c'est clair.
Alors, justement, moi, je voudrais revenir sur le processus qui vous a amené à devenir éditeur. Bon, pour moi, un éditeur, c'est d'abord un lecteur, donc un lecteur qui a envie d'aller plus loin. Peut-être parce qu'il ne trouve pas dans les différentes collections qui existent ce qu'il a envie de lire. Mais je pose aussi la question, pourquoi pas auteur ? Pourquoi on fait le choix de devenir éditeur ? Est-ce que c'est parce qu'on s'est dit qu'on avait envie d'écrire et puis finalement on préfère, pour des X raisons, éditer ? François Guérif.
Bah écoutez, simplement, je ne suis pas auteur. Je veux dire, j'ai le sentiment de ne pas avoir grand-chose à dire. Je me suis essayé dans mon jeune âge. J'ai fait quelques nouvelles qui ont été publiées, un roman d'horreur. Mais je me suis dit que ce n'était pas ça. Pourquoi éditeur ? Au départ, c'est vraiment une passion. En fait, ce qui m'a amené à l'édition, c'est un jour je suis tombé sur un livre, enfin c'est même pas un livre, c'est un catalogue d'un type qui s'appelle Matthew Hubin, et j'ai regardé, ce n'était que des bibliographies. Et je me suis rendu compte que parmi les auteurs que je mettais vraiment très très haut, qui s'appelait David Goodis, qui s'appelait Jim Thompson, pour ne citer que ces deux-là, je me suis rendu compte qu'il y avait par exemple 22 Thompson inédits, qu'il y avait 10 Goodis inédits. Il y avait 7 James Cain et Nelly et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi ces livres n'ont pas été publiés ? Et j'ai eu, premièrement, le désir d'arriver à trouver des exemplaires, ce qui n'était pas simple. Et quand je les ai lus, je me suis dit, mais ce n'est pas possible que ces livres ne soient pas connus, ne soient pas amenés. Et c'est cette passion pour ces auteurs, et donc à l'époque pour ce genre, qui a fait que... Alors en même temps, c'est un peu, la question est un peu biaisée, que j'ai pu créer ma première collection parce que j'étais auteur mais de biographie de cinéma chez un éditeur. et qui s'appelait Pâques. Et moi, j'avais fait, ils avaient une collection qui s'appelait Tête d'affiche. J'ai fait un livre sur Paul Newman, hein, qui a été un best-seller. Et les pauvres, ils se sont dit, ce garçon a de l'or dans les mains, donc qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc ils ont, ben, j'aurais dit, je veux faire une collection de romans policiers. Et je vous jure, c'est une histoire vraie. Et en 78, donc nous étions distribués par Hachette. Et le jour où on a présenté aux représentants les quatre premiers, qui étaient quand même Goodis, Robert Bloch, Frédéric Brown et James Cain, le chef des représentants nous a dit, mais mon pauvre ami, vous êtes complètement fou. Plus personne ne lira jamais David Goodis aujourd'hui. Plus, ce sont des gens, c'est fini. Voilà. Et et puis de fil en aiguille, il y a eu un intérêt de la presse. J'ai été soutenu par des gens comme Manchette, en fait, etc. Et puis après, ça c'est presque venu naturellement. Mais alors en même temps, moi, ça me va très très bien d'être éditeur. Je trouve ça un peu comme un producteur de cinéma. Justement, je ne suis pas un écrivain. Je ne suis pas un auteur. Je ne suis pas frustré parce que j'arrive pas à m'exprimer comme auteur. Mais par contre, je trouve une vraie satisfaction à faire connaître des gens à un public qui ne les connaissait pas. Et puis, après avoir publié les inédits, et à révéler un certain nombre de gens au public français. Je trouve ça très gratifiant.
Oliver Gallmeister, sur ce cheminement, lecteur, éditeur, lire, écrire, éditer.
Pareil. Je ne sais pas quoi dire après ça, mais non, moi j'ai jamais eu envie d'écrire plus que ça, j'ai rien à dire. Je pense que chez les éditeurs, on est tous un peu collectionneurs, et moi je publie les livres que j'ai envie de lire. Voilà, et voilà, c'est tout. Et notre métier, c'est d'être lecteur professionnel, et donc on fait la même chose que ce que vous faites tous quand vous lisez, sauf que nous, voilà, on s'approprie les livres pour essayer de les faire partager de manière la plus vaste possible. Mais sinon, c'est exactement ça. C'est le bonheur de recevoir un mail d'un lecteur ou d'une lectrice qui dit « Ah voilà, j'ai lu tel livre, ça m'a touché. » Voilà. Nous, on est juste là. Et c'est surréaliste de se dire que des auteurs ont été exhumés par François, des auteurs ont été découverts par François ou par moi, et qui voilà maintenant touchent le cœur des gens alors qu'ils ont écrit leur truc il y a un demi-siècle ou il y a 10 ans dans une cabane on sait pas où, et voilà, ça je trouve que c'est un peu magique.
Donc c'était Oliver Gallmeister et François Guérif au micro de Radio PFM en direct le 1er mai dernier dans la cour de l'hôtel de ville à l'occasion du salon du livre d'expression populaire et de critique sociale à Arras, interrogé donc par Hervé Delouche de 813 et Radio PFM autour de cette question éditée du noir. Je vous signale que nous venons d'écouter un extrait assez court de cette émission, de cette rencontre qui a dû durer 45 minutes. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, bien entendu, écouter intégralement cette rencontre éditée du noir avec François Guérif et Oliver Gallmeister sur vous connectant sur le site de Radio PFM dans l'espace. Alors il faut aller dans l'espace reportage chronique, et dans cet espace reportage chronique, il y a un espace salon du livre, et donc là vous trouverez un édité du noir et vous pourrez écouter l'intégralité de cette rencontre. Voilà, on fait une petite pause musicale et puis on se retrouve pour quelques pistes de lecture.
embrasser la vie pendant que je veux me taper. J'y tiens tellement, je n'aurais jamais pensé y planter mes dents jusqu'à enseigner.
Music dans Variation en noir, dans Variation sur PFM, Music ici-bas, ici même, c'était le morceau, la chanson à l'attaque. Donc nous avons dans ce Variation en noir écouté François Guéry, Oliver Gallmeister, et ça me ça m'amène à vous parler rapidement, à vous signaler que un autre notre figure du milieu éditorial des littératures noires, une figure importante de ce milieu, Patrick Reynal, est au sommaire du numéro 17 de la revue Temps Noir, la revue des littératures policières aux éditions Joseph K. Et donc c'est l'occasion de découvrir ce monsieur qui est déjà venu lui aussi à Arras au Salon du Livre, qui est un écrivain. Lui, il est aussi écrivain, il a un certain nombre de romans à son actif, éditeur, scénariste, traducteur. Donc Patrick Reynal, spécialiste du roman noir et de la littérature américaine, a dirigé La Série Noire, il a dirigé Fire Noir, comme François Guérif. Aujourd'hui, il est éditeur freelance et il travaille avec les éditions du Seuil, avec Sonatine, Le Cherche Midi. Et puis, donc il est aussi maître de conférences à Sciences Po. Il anime un cours intitulé « Raconter le monde ». Donc, une rencontre avec Patrick Reynal dans le dernier numéro de la revue trimestrielle, semestrielle, Temps Noir. Une revue pour les amateurs des littératures policières, une revue très érudite. Voilà, donc dans le cadre de ces pistes de lecture, ce type de revue est toujours une mine. Hein, si vous intéressez aux littératures noires et si vous, vous avez envie de découvrir des lectures potentielles, n'hésitez pas. D'autant qu'il y a un gros dossier très très riche consacré à la croisée des genres polar, fantastique et science-fiction. Hein, un dossier qui est introduit par Loric Guillot, qui est un universitaire, un spécialiste de ces littératures. Il avait notamment dirigé un colloque et des écrits autour des détectives de l'étrange. Donc un dossier introduit par Loric Guillot, mais aussi avec des rencontres avec des écrivains, Mara Le Dain, Xavier Mauméjean, China Miéville, Rosa Montero, Cathy Unsworth, Serge Lehmann. Donc, revue Temps Noir numéro 17, plus plein d'autres choses, bien entendu, et beaucoup d'idées de lecture, mais aussi de films, puisque à chaque numéro de Temps Noir, on vous propose une DVD tech, hein, et en l'occurrence, il s'agit de la DVD tech du film Criminel. Voilà, donc ça, c'est Temps Noir. Alors, avec Hervé Delouche et 813, nous avions envie, comme piste de lecture pour cet été, de vous proposer, en fin de compte, les sélections des prochains trophées 813. Les trophées 813 sont des prix, un prix littéraire remis par l'association 813. Et donc par les membres de cette association qui sont des lecteurs, des amateurs, hein, des écrivains, et donc qui seront remis en octobre. Et donc il y a une première sélection qui a été opérée, et donc ça donne quand même des pistes intéressantes de lecture au niveau donc trophée du roman francophone. cinq romans hein, de l'année 2013, de l'année écoulée, ont été sélectionnés. Donc il y a Sandrine Colette, Des nœuds d'acier, aux éditions de Noël. Paul Collise, Un long moment de silence, à la manufacture de livres. Yann Manouk, Yeruldegger, aux éditions Albin Michel. Elsa Marpeau, L'expatrié, chez Gallimard, série noire. Elena Piacentini, Le cimetière des chimères au-delà du raisonnable. Donc voilà cinq romans noirs français qui peuvent constituer une lecture intéressante pour l'été qui vient. Autre trophée 813, le trophée Michel Vitard, roman étranger, recueil de nouvelles étrangères. Donc là, cinq titres qui ont été sélectionnés. Victor Del Arbol, La maison des chagrins, aux éditions Actes Sud. Sam Millar, On the Bricks, aux éditions du Seuil. John Esbo, Fantôme, série noire, Gallimard. Martin Waits, Né sous les coups, rivage thriller, un roman qui nous a été présenté par Hervé Delouche il y a peu dans Variations en noir. Et enfin, Don Winslow, Dernier vers à Manhattan, aux éditions du Seuil. Et puis il y a aussi... Alors, il y a un trophée 813 Maurice Renaud, essais, études, articles de presse. Et parmi les cinq titres, hein, je ne vais pas tous les énoncer, mais on retrouve de Philippe Blanchet, François Guérive, Du Polar, entretien aux éditions Payot Rivage. Donc là, vraiment, quelqu'un qui veut découvrir le genre, comprendre un petit peu son évolution, sa constitution, et puis se donner des pistes de lecture intéressantes, c'est incontournable. Hein, Du Polar, donc de François Guérive et Philippe Blanchet. Chez éditions Payot Rivage, mais il y a aussi un trophée 813 consacré à la bande dessinée. Et donc là, il y a six BD qui ont été retenus, donc qui ont particulièrement été appréciés par les adhérents de l'association 813. Black Sad 5, Amario de Guardino et Diaz Canales, aux éditions Dargo. Crève Saucisse de Huro et Rabaté, Futuropolis, Le Dahlia Noir, un classique, Delroy, adapté par Ayman, Matz et Fincher, aux éditions Rivage, Casterman, Dominica, de Balèze et Le Goût et Fleck, aux éditions Glénat, Mon ami Damer, Bakderf, aux éditions Saïla, et enfin Tyler, Cross, Bruno et Nuri aux éditions Dargo. Donc voilà pour les sélections pour les trophées 813. Donc assurément, hein, des pistes de lecture intéressantes pour cet été. Voilà, donc ce numéro de Variations en noir se termine. C'est le dernier vendredi du mois de juin, donc c'est le dernier numéro avant la pause estivale. Une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec son président Hervé Delouche. Mais Bernard, hein, nous donnons rendez-vous après l'été, fin septembre.
Fin septembre, oui.
Bon, nous, on aurait bien continué, hein, mais toi, tu prends des congés. Donc, donc voilà. Donc,
faut suivre. Hein.
Voilà, on n'a pas le choix. Hein, donc on fait avec toi, on fait la pause en juillet et août et on se retrouve donc dans Variations fin septembre pour réattaquer une saison de Variations en noir sur Radio PFM.
Bonnes vacances
à toutes et à tous aussi.